Merci Adèle pour cette présentation de votre ouvrage hein, qui donne envie de s'y plonger plus profondément. En tout cas, moi je l'ai fait. Hein. C'est fait. Mais donc, c'était une belle entrée en matière. Donc, si vous voulez bien, on peut enchaîner en tout cas sur des questions, des remarques, des précisions. Adèle est là pour y répondre. Oui.
Il y a juste une question qui me taraude. Je
n'ai
pas été du tout inquiétée parce que vous parlez de ça comme on parlait de vacances au bord de la mer.
Alors, il n'y a pas la mer et ce n'était pas des vacances. Non,
mais, d'accord. Mais bon, je me dis avec cette douleur, c'est envers les femmes et toujours en tant que journaliste ou ethnologue, je ne sais pas. Mais... Comment vous êtes présentée là-bas?
Ben, comme ethnologue, enfin comme étudiante en anthropologie en train de faire ma thèse. Et en fait, justement, je pense que l'attention médiatique qu'il y a sur Badi Lawato joue un petit peu en ma faveur parce que comme ils arrivent par l'armée ou par la mairie et qu'à l'inverse, les habitants savent très bien que leur village est considéré comme... ça, le fait que je débarque et que je décide de rester, que je cherche un endroit où habiter, que je dise que je veux faire du travail social à la mairie, des trucs comme ça, ça me sortait un peu des conceptions habituelles vis-à-vis des journalistes. Et ensuite, je m'intéressais pas à l'élite du narcotrafic. Donc au début, le début était compliqué. Dans le sens où moi j'avais des très fortes appréhensions de me dire bon à un moment donné je vais avoir un rendez-vous avec potentiellement je dois partir ou potentiellement et en fait il est jamais arrivé même si je pense que par exemple le fait que je sois devenue copine avec Théophilo au début a aidé à ce que la voix remonte sur le fait que j'étais vraiment pas en train de faire une enquête efficace si j'étais en train de m'intéresser à l'organisation du narcotrafic puisque je passais mon temps dans des épiceries, dans des couloirs d'administration et avec des gens qui étaient un peu dépassés par ces questions-là. Donc, je pense que le fait de voir que je n'étais pas en train d'aller dans les lieux, dans les situations où il y avait les gens qui ont un intérêt très fort économiquement à la dissimulation, m'a protégé, quoi. Ils m'ont laissé faire mon truc, quoi, grosso modo. Voilà.
Oui, sachant que vous précisez, enfin dans l'ouvrage, tu précises, on se tutoie, oui. On va aller jusqu'au bout. Dans l'ouvrage, j'ai bien aimé ce passage quand même, où je crois que c'était lors d'une conversation dans un bus où une personne oui. se livre, t'es oui. tellement surpris qu'elle se livre à te dire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Finalement, on te fait comprendre qu'on sait qui tu es oui. et qu'à la fin, on sait que tu viens de l'université. Donc, oui. c'est. Voilà, ça reste quand même une petite bourgade où les choses
oui,
se savent.
Voilà. Et après, les gens communiquent. Donc, dans le chef-lieu, j'étais assez vite identifiée. Et ensuite, les gens dans la Sierra, il n'y a pas de réseau téléphonique du tout. Donc, tout le monde communique avec des radios. Et en fait, les radios, elles créent, en fait, selon les réseaux, les fréquences sur lesquelles on est, on est en train de parler en même temps à toute une zone, à un hameau. Et en fait, quand je me déplaçais, les gens prévenaient les gens chez qui j'allais. Pour dire, ah, elle arrive, elle va être... Enfin, c'était vraiment de la question logistique, mais du coup, tout le monde savait qu'il y avait la Française qui était dans le secteur, quoi. Et effectivement, cette occasion-là, c'est le fait que dans le village, pour parler des homicides, il y a plein de formes de précautions dans l'interaction qui fait que les gens font toujours attention à ne pas avoir l'air intéressés alors qu'ils sont en train d'échanger des informations. Et du coup, quand ce mec commence à me raconter ce qui s'est passé dans l'organisation du trafic de drogue, mais aussi... et puis, il insistait, et j'étais là, mais... une heure et demie de bus à essayer de changer de sujet, mais en mode, sinon, le paysage, joli, tout ça, et ça marche. Et à la fin, effectivement, il me dit, sinon, le livre, ça avance. C'était ça. Donc, oui, ça circulait assez facilement.
Et moi, j'ai une question par rapport justement à ce contexte de violence. Si elle se retournait, s'il n'y a pas eu à un certain moment le problème qu'elle se retourne contre les informateurs, c'est-à-dire les gens qui peuvent donner des informations, s'il n'y avait pas cette peur que ça se retourne contre eux.
Non, alors je les anonymise dans le.
Non, je parle même au niveau.
Non. Non, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du banal, du quotidien. Ce que moi j'observais, c'est même un problème quand Théophilo, j'ai dû, pour la thèse, je l'ai appelé pour lui demander comment il voulait s'appeler. Et il a cru que c'est parce que je n'aimais pas son prénom. Je lui ai dit, mais c'est pas ça, c'est que vous apparaissez. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on va me faire parce que je suis en train de te raconter des trucs. Effectivement, j'étais pas avec des gens qui étaient menacés par ma présence. ils pouvaient être notamment les filles, les femmes avec lesquelles j'ai été, elles sont exposées à la violence, mais pas tant par ma présence, quoi. J'allais pas dans des endroits compliqués, enfin dans des endroits en termes de, c'était compliqué l'endroit, mais j'allais pas, je posais pas de questions qui pouvaient les mettre en danger, et les voisins le voyaient. Il y a même une famille qui, dans le cadre justement de suspicions qui pesaient sur elle, a au contraire essayé de me faire venir chez eux. J'y suis pas allée parce que je savais qu'il y avait trop de suspicions. Mais non, au contraire, ma présence n'était pas là-dessus, elle ne suscitait pas de menaces particulières.
Ah, sinon, j'ai une autre question, c'est par rapport au fentanyl, parce que donc, ce n'est pas une drogue qui est à base de produits chimiques.
Ouais.
Donc, il y a des laboratoires qui se font dans le Sinaloa, mais dans ce cas-là, les paysans sont complètement en dehors de cette histoire.
Voilà.
Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent plus vendre leur production, et c'est là où ils se retrouvent encore plus précaires.
Exactement. En 2017, le prix de la gomme du pavos est divisé par 10 du fait de l'introduction du fentanyl. Et petit à petit, il remonte parce qu'il y a quand même une demande d'héroïne aux États-Unis qui remonte. Là, quand j'y suis retournée, c'était assez… En fait, pendant longtemps, pendant quelques années, les récoltes… Parce qu'en plus, la répression s'est exacerbée. Quand moi, j'y étais, ils n'étaient pas en train de dépendre des défoliants. Et là, ils étaient de nouveau, ils s'étaient remis à épandre des défoliants, ce qui a éradiqué toutes les cultures vivrières dans les années 80. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe, tout ça. Mais donc, ils avaient encore exacerbé un petit peu cette répression. Et du coup, ce que je suis en train d'observer, c'est que comme il y a des nouveaux gens qui s'installent, des nouveaux entrepreneurs qui ont besoin de cacher les laboratoires, de protéger les chargements, les groupes, quand ils étaient un peu moins organisés, sont plus organisés, y compris avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et en fait, c'est les femmes qui sont en train d'être salarisées ou les hommes qui vont être salarisés pour aller surveiller une route ou des choses comme ça. Mais la possibilité d'être paysan était en train de disparaître. Je crois que ça va un peu mieux. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais oui, quand c'est vraiment les entrepreneurs qui peuvent reporter... Sans négociation, sans quoi que ce soit, la baisse des prix que eux provoquent en changeant de produit aux États-Unis, quoi.
Et alors sinon, c'est plutôt une. J'ai lu il y a longtemps un livre d'une femme qui s'appelle qui s'appelle La Maîtresse Noire. Ouais. Tu l'as
lu ?
Non.
Mais alors c'est très drôle parce que je travaille sur le Mexique depuis. Longtemps, enfin oui, 10 ans, et on est plusieurs, et en fait c'est Bernard Trémont à Bordeaux qui m'a dit est-ce que tu savais qu'il y avait un bouquin que tu cites pas qui fait exactement la même chose que toi, et voilà, il y a énormément d'échos et j'en avais jamais entendu parler.
Il travaille donc sur la façon dont on se comporte face à la mort.
Ouais.
C'est plus important pratiquement que ta vie, c'est la manière dont on meurt.
Ouais.
Mais
ça y est, je viens de le recevoir, donc je vais le lire. Après, c'est dans une région, enfin cette question de aussi de la proximité de la mort, c'est dans Oaxaca qu'elle fait son enquête et où juste la question de la fête des morts est un peu différente. Voilà. Mais j'ai juste ouvert le sommaire et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui font des échos, donc on pourra en reparler. Bonjour.
Moi, je m'interrogeais sur est-ce qu'il y a comme violence au point politique et disparition forcée. Parce que moi, j'ai été confrontée dans l'état de Oaxaca, et alors c'est assez. C'est très problématique parce que justement, c'est une violence qui est encore pire que la violence où il y a des corps.
Quand ouais.
On peut pleurer, on peut parler de la fête de mort, mais justement, une fête de mort, quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de deuil, et il n'y a plus de célébration, il n'y a plus de possibilité de deuil, il n'y a plus de. Et voilà. Et donc, du coup, dans l'état de Oaxaca, dans la Sierra aussi,
ouais.
Ça fait complètement une multitude
ouais.
De façon influente en remontant par l'état de Veracruz. Donc, là, il y a des morts, mais quand
pourquoi il n'y a pas de mort? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, pas pendant mon enquête et depuis, après, moi j'ai enquêté entre 2013 et 2015 en termes de, enfin les années quoi, et il n'y avait pas de disparition. Il y avait des disparitions sur la côte, des choses comme ça, mais à Badi Laguato, il n'y avait pas de disparition. Et quand j'y suis retournée quand j'y suis retournée, ça y est, ça a pris une proportion. Et en fait, les journalistes, les activistes, les chercheuses de corps, les buscadoras, c'est des collectifs de mères qui s'organisent pour essayer de chercher à plusieurs les corps des disparus et ouvrir des fosses communes. Et un des principaux obstacles qu'elles rencontrent, c'est le fait que l'armée, le pouvoir politique ne les laisse pas faire ces recherches-là. Et les activistes avec qui j'en ai parlé dans le Sinaloa disaient, quelque part, il y a eu quelque chose où depuis, dans les gouvernements se gargarisent de la baisse du nombre d'homicides, alors que le nombre de disparus ont explosé. Et donc, il y a un petit peu une dimension de, comme s'il y avait eu un accord à un moment donné, en mode, ah, ok, mais arrêtez de laisser vos corps sur le bord de la route, quoi. Mais maintenant, ouais, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à Badi Laguato, la célébration des personnes tuées est impossible aussi. Il y a les corps, mais la menace qui pèse sur tout ce qui entoure la personne qui a été tuée, c'est que les gens ne peuvent pas aller aux veillées funèbres qui sont au Mexique quelque chose de très important. C'est une semaine pendant laquelle le corps est veillé, tous les voisins doivent venir, tous les gens. Et là, à chaque fois, c'est des veillées funèbres qui sont entièrement désertées. Les familles les font, mais personne n'y va. Et plusieurs fois, j'ai entendu des gens m'exprimer à quel point ils le regrettaient, mais en disant, en fait, on ne sait pas, parce que juste parce qu'on a été vu là-bas, si ce n'est pas juste un homicide isolé, mais que c'est le début d'un règlement de compte où la personne est visée en tant qu'appartenant à un réseau plus large, on ne peut pas s'y rendre. Et aussi parce qu'il y a eu des cas au Mexique où il y a eu des veillées funèbres qui ont été mitraillées directement. Donc, pas de possibilité non plus d'un deuil en bonne et due forme, quoi. Et aujourd'hui, avec la disparition, effectivement, c'est encore... c'est une autre dimension, mais même le deuil n'était pas gérable dans la situation d'avant.
Est-ce que les émotions peuvent être un substrat pour l'ethnologue, vous en êtes servi? Est-ce que vous en avez ressenti? Et lesquelles? Ou est-ce que chez les participants aux entretiens ou dans la population, dans le village, il y avait des émotions qui étaient palpables? Je pense à la peur, notamment.
Oui, la peur. La peur, ça a été une grande question. Et en fait, j'avais très peur d'apposer ma peur sur les peurs des gens. C'était une phrase avec un vocabulaire très varié. parce que en fait, le fait que moi j'ai peur de tel endroit, je sais pas si c'est parce que on me l'a transmis ou est-ce que c'est juste je suis pas habituée au mode de sociabilité à cet endroit-là, ou alors j'ai pas les éléments pour lire alors que mes interlocutrices et mes interlocuteurs l'ont. Donc du coup, j'ai essayé de le tenir à distance, parce qu'à la fois j'essayais de comprendre qu'est-ce que les craintes qu'ils avaient, comment ils mettaient en place des stratégies de protection. Donc en gros, je me suis vraiment focalisée sur quand ils exprimaient des « on peut pas faire ça, ça c'est pas possible ». Et en essayant de réduire le truc. Parce que moi, il y avait plein de moments où j'ai eu peur, mais je savais pas si c'était juste moi ou…
D'accord, mais globalement, les habitants ont tendance à refouler un peu les émotions avec des stratégies d'évitement et un certain cadre.
Ils ont tendance à refouler. Alors, sur des stratégies d'évitement, concrètement, il y a des lieux et des temps dans le village où on ne va pas. Et donc, ça, j'ai essayé de le comprendre. Et justement, je suis en mode, est-ce qu'on a peur d'y aller? C'est quoi? Je me suis maintenue au fait que, pour une raison ou une autre, bon, notamment parce que c'est un endroit où on tue plus que d'autres endroits, les gens s'y rendent pas et ils vont m'exprimer ça dans un truc très lapidaire, quoi, hein, même pas en rêve, j'y vais, sur le fait qu'ils ne vont pas se rendre veillés, par exemple. Après, si je prends en compte des sentiments sur ce que ça fait, par exemple, quand on est un des proches de la personne tuée et que sa famille ne vient pas, parce que ça fait peur. Mais l'endroit où il y a une très forte mise à distance de l'incertitude, de la peur, c'est sur la qualification de ce qui est arrivé. Dès que j'observais des trucs très bizarres où dans le même échange, les gens étaient un peu en train d'essayer de savoir qui c'est qui avait été tué, où est-ce qu'il était quand il a été tué, un petit peu qu'est-ce qu'on sait de ça pour savoir justement si on est face à un homicide isolé ou si on est face à... ils appellent ça des cas isolés, ou face au début d'un conflit qui risque de demander encore plus d'attention. Et là, c'était régulier d'entendre « Non, mais de toute façon, c'est bien pour quelque chose. » « Ah ben, si tu te mets dans des sales draps, hein, c'est plus facile de se mettre dans des sales draps que d'en sortir. » Des trucs d'une lourdeur. Et en fait, ça fait référence au Mexique, plus largement, il y a une très très forte responsabilisation des victimes. Donc ça s'inscrit dans un cadre national particulier, mais quand on le voit à l'échelle d'un village où en fait dans les mêmes réseaux de proximité il y a tueurs et tués, il y a une sorte d'urgence à mettre à distance ce truc-là, quoi. Enfin, en tout cas, moi je l'ai analysé comme ça, comme une urgence à le mettre à distance. Et pour le mettre à distance, dire que la personne a fait quelque chose que moi je fais pas. Ouais, je notais toutes ces phrases et c'était toujours solo a los que los matan. Et c'était seuls ceux qui, tout le temps seuls ceux qui. Donc une manière un petit peu d'éloigner ça. Ouais.
Et alors, est-ce qu'il y a de la violence politique au niveau de tout ça ? Parce que moi, je travaille dans le Guerrero, donc ouais. Il y a la violence de Marco, mais après, la violence politique. Donc là, ça va pouvoir mettre.
Alors, la violence politique, comme on l'entend là, non. Non, il y a... très peu, il y a eu des observateurs de trucs électoraux de l'INE qui se sont fait tuer. Mais c'est une fois, et en fait, c'est surtout selon le parti avec qui ça va fonctionner, des équipes de campagne peuvent accéder ou ne peuvent pas accéder. Donc, par exemple, le PRI n'a jamais vécu de revers électoral avant quand c'est Morena en 2021 qui a remporté l'élection. C'est Morena qui a remporté l'élection. Et le président de la République en est à sa quatrième visite à Badiraguato depuis le début de son mandat. Mais il y a plutôt des accords très très forts qui pèsent sur la structuration locale, mais la violence électorale, il y en a peu. Après, la violence dans les homicides, quand j'essayais de saisir la texture un peu sociale des homicides, le fait que ça soit criminel ne rend pas compte de trucs. Il y a une violence sociale très forte. Il y a des gens qui sont tués juste parce qu'ils ont essayé de rentrer d'une manière ou d'une autre dans un autre mode de... Enfin, la distinction, elle me paraît compliquée, mais la violence électorale en tant que telle, non, elle est pas du tout aussi forte que ce qu'on a vu dans Michoacán, dans Guerrero, dans l'Oaxaca et tout.
Une question en ligne, il y a des gens qui sont en vidéo. Une question de Félix, de l'ami.
Ouais, je regarde. Ouais. Monde,
Félix de Badiraguato.
Est-ce que vous pouvez développer la notion d'incertitude que vous avez mentionnée comme centrale ? Quels sont ses effets sur la population ? Comment est-elle vécue et appréhendée au quotidien ? Comment se traduit-elle ?
Alors. l'incertitude, je l'appréhende comme la difficulté à anticiper les conséquences de ses actions. Le fait qu'on ne sache pas exactement ce qui se déroule que c'est une question de navigation dans le monde social. Et je l'ai tiré parce que j'observais une très forte nécessité pour les gens avec lesquels je travaillais d'enquêter sur ce qui se passait autour, les homicides, qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que c'est tel groupe armé, d'où il vient, tout ce genre de choses. Et que, en fait, c'est dans la littérature en anthropologie des conflits armés, c'est quelque chose qu'on a retrouvé à Sarajevo, qu'on a retrouvé dans à peu près partout. Les anthropologues ont fait à partir des années 90, quand il commence à y avoir la question de la vie quotidienne dans la violence, il y a cette question d'incertitude qui jaillit. Mais, et c'était ce qui m'intéressait, à Badiraguato, contrairement à ces cas-là, qui sont vachement, par exemple, mis en évidence dans un texte de Elisabeth Clavery, Technique de la menace, qui raconte comment le début d'une logique de nettoyage ethnique était tellement incompréhensible pour les personnes qui habitaient dans le village qu'elles n'ont pas réussi à interpréter les arrivées des hommes armés dans leur village, tout ça, qu'il y a un changement de paradigme direct. Donc, c'est ce côté, on ne peut pas anticiper. Il y a une rupture de ce à quoi on est habitué. Et en fait, à Badiraguato, c'est exactement l'inverse. On sait exactement, c'est juste une violence et une incertitude qui se traduit dans les interactions, mais qui se traduit aussi sur le type de droit qu'on a sur une parcelle, sur le type d'accord qu'on a avec un pesado qui va acheter sa récolte, sur la petite longévité de ces pesados, le fait qu'ils disparaissent régulièrement et que ça met les habitants en proie avec la nécessité de trouver d'autres endroits où vendre leur gomme, mais aussi de se protéger des groupes armés alentours qui peuvent prendre le contrôle de leur village. Donc elle se déploie de plein de manières, mais elle est inscrite dans un jeu social extrêmement écrasant. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une date, c'est pas à Badiraguato, il n'y a pas à partir de 2006 tout est parti en vrille. Là où j'avais travaillé avant dans l'état du Chihuahua, il y avait un massacre qui marquait un avant et un après. Les gens disaient qu'il y avait du narcotrafic, tout le monde le connaissait, tout ça, mais à partir de ce massacre, tout est parti à volo, quoi. Et à Badiraguato, c'est une sorte de prévisibilité de l'imprévisibilité qui s'étend sur le très long terme et qui est liée à la manière dont s'exerce la domination locale des élites notamment criminelles.
Pour revenir sur ce que vous avez dit, par rapport aux gens, aux cadavres qui sont dans la rue, c'est les gens qui sont là pour les récupérer ou...
Oui, alors il y a trois pompes funèbres dans le
village. Ils sont chargés de voir.
Ah non, il y a la croix rouge. Enfin, il y a la croix rouge locale. C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps et en fait, je n'ai pas du tout enquêté là-dessus. On m'avait demandé, est-ce que du coup, à cet endroit-là, la crainte que fait. Que réveillent les alentours de la mort prévaut. Et en fait, par exemple, à l'hôpital, oui. Parce que si quelqu'un est blessé et pas tué, déjà les secours mettent du temps à y aller par peur que ça continue. Et y a au moins deux cas que je connais où les hommes en armes qui voulaient le tuer sont allés le tuer à l'hôpital et ont tué un médecin aussi. Donc il y a une continuation de ce truc-là et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas du tout enquêté sur les pompes funèbres. Et même toutes les institutions et les groupes autour de la gestion de la mort, qui est un sujet ultra intéressant et important dans ce contexte-là.
Et par rapport au grand-père là, qui travaillait dans le ramassage
du
nettoyage public, du coup, comment ça se passait s'il tombait sur les corps ?
Il prévient la police municipale ou il prévient... Et après, en général, il y a les enquêteurs de Culiacán de la police ministérielle qui doivent venir, mais dans la Sierra, ils y vont, dans la partie montagneuse, ils y vont pas tout le temps.
Et les morts normaux,
donc les gens qui sont assassinés. Ah voilà, et les morts.
Donc, non assassinés, ils doivent avoir un traitement.
Absolument. Faveur, ouais. Tout le monde va à la veillée.
Oui.
Tout le village va à la veillée. Plusieurs fois dans la semaine. Genre tous les jours, les deux cas, il y avait un peintre en bâtiment qui s'était électrocuté et une dame qui est morte de vieillesse. Et là, tous les gens que je connaissais passaient leur vie à la veillée. Donc, ils étaient un peu en train aussi de veiller d'autres, je pense. Mais c'était très, très impressionnant. C'était l'activité principale quotidienne de tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, quoi.
Alors peut-être dans le même fil, tu en parles peu dans le livre, alors je ne cherche pas une instance morale à tout prix, mais la question de la religion, en fait, la religion est quasiment pas présente, et est-ce qu'elle a une place, justement, au milieu de tout ça ?
Alors, elle était, j'en avais fait un chapitre parce qu'il y a un endroit dans la Sierra où il y a des gens qui, sur un truc de reconversion générale, donc ils ont reconverti leur économie vers du légal. Il y en a un des frères qui en plus s'appelle Jesus qui a eu une vision du Christ, et ils ont construit un hameau de zéro à l'endroit où leur père faisait paître ses vaches, et dans laquelle ils ont construit une école pour que aussi tous les orphelins autour puissent y aller, ou aussi les... Et donc du coup j'ai analysé un petit peu ce cas et la place de... Mais en fait, par exemple, ils sont catholiques et ils disaient qu'ils étaient catholiques, mais en fait ils avaient des pratiques exclusivement du coup évangéliques, parce qu'ils ont essayé d'avoir l'appui de l'autorité catholique locale, et l'Église a refusé, parce qu'a priori ils étaient probablement sales, alors que dans d'autres endroits j'entendais que les prêtres ils adorent être nommés ici parce qu'ils savent que lors des baptêmes et des mariages ils vont pouvoir toucher beaucoup d'argent. Et les gens avec lesquels j'étais dans le chef-lieu n'allaient jamais à la messe. Et moi, je n'ai pas d'appétence très forte pour... donc, du coup, je n'ai pas forcé la porte, je pense, de l'église. Mais effectivement, ce n'est pas une dimension qui était très présente dans le quotidien de mes interlocuteurs, alors que dans les pratiques de violence des pistoleros et compagnie, il y a une très forte... un très fort symbolisme. Ils ont des saints, il y a un saint local Malverde qui est pas reconnu par l'église, mais qui c'est tout comme ils ont le saint Judas parce que c'est le mec des postes perdus. Ils ont des saints très forts, ils ont des pratiques religieuses très importantes, mais c'est plus des gens dans la violence que des gens l'endroit où moi j'enquêtais, il n'y avait pas beaucoup, à part ces gens-là qui, du coup, se réunissaient pour faire des sessions de prière, de trucs comme ça.
Une question.
Oui, j'avais beaucoup la question des séries, en fait, je voulais savoir si ça avait un écho, quel type de cours, en fait, sur notamment la jeunesse de ce type d'endroit, est-ce que ces séries sont... regarder, commenter,
est-ce qu'il y a des formes d'identification? Ouais. Je sais pas. Elles sont. Les gens savent. Alors, il y a Nexos, Netflix, la série Narcos n'était pas sortie pendant mon enquête. Donc, je n'ai pas eu de retour là-dessus. Je pense qu'il y a sur d'autres productions médiatiques, il y a une petite fierté à certains endroits ça vient de chez nous. Mais j'ai pas l'impression que ça soit, qu'il y ait plus d'écho, là-bas que dans d'autres endroits. Par exemple, une des séries qui était, une des telenovelas mexicaines très importantes, qui était pendant cette époque très regardée partout, c'était La Reina del Sur. Qui est tiré du roman de Arturo Pérez Reverte, et à Badiraguato, personne ne l'a regardé. Enfin, c'était pas. Alors que le début se passe à Badiraguato et tout, il n'y avait pas de. Je ne pense pas qu'ils avaient une audience. Il faudrait demander l'audimat de ce genre de trucs selon les endroits, mais je ne sais pas. C'était pas très convaincant comme réponse, je suis désolée. En fait, je ne sais pas, c'était plus court.
Ouais. Moi, j'ai une question en toute candeur, parce que je comprenais que ces gens-là sont quand même très préoccupés par le fait qu'ils peuvent mourir à tout moment, en partie. La santé,
ouais.
Est-ce que tu as évoqué l'usage de dépollants, donc est-ce qu'il y a pas une conscience éco, c'est pas du tout ça, mais est-ce que. Comment les gens sont préoccupés par leur santé? Est-ce que peut-être qu'il y a une traumatisation de cette situation d'incertitude, de la violence qui pèse? Est-ce qu'il y a des situations d'alcoolisme? Est-ce qu'il y a des situations de consommation de drogue? Voilà, au niveau de la santé globale de la population, comment ça se passe?
Il n'y a pas de conscience très claire de ça. Okay. J'ai pas eu d'écho sur des traductions où les gens les feraient en lien. Il y a un cas où j'avais un petit peu posé cette question-là au psy de la mairie et qui m'avait fait une réponse assez drôle en me disant, je lui demandais c'est quoi la chose pour laquelle les gens viennent le plus vous voir et il me disait c'est des crises de nerfs. Enfin, les gens appellent ça des crises de nerfs, mais en vrai c'est des dépressions. Oui, c'est des dépressions et je lui dis, ça se manifeste comment? Il me dit que par exemple, les gens entendent un hélicoptère et ils se mettent à trembler. Je lui dis, donc c'est lié à la répression. Il me dit, non, c'est pas du tout lié à la violence. Hein. Enfin, ça peut être lié à la violence. Il y a pas de... Même le psy est pas a du mal à faire ce lien-là, alors qu'il le fait de manière immédiate, inconsciemment. Mais il voulait surtout... il m'a dit que les gens venaient pas beaucoup le voir et que c'est ce qu'on appelle la résistance. Bref. Mais non, il n'y a pas de notion très forte, y compris sur des questions de santé. Si, il y a une critique très forte du fait que les centres de santé sont désertés. Si tu as un accident dans la Sierra, avec le fait qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, le fait que les routes sont en très mauvais état, que tu peux mettre 8 heures pour aller d'un endroit au chef-lieu, il y a une critique là-dessus sur les infrastructures de santé. Mais je n'ai pas entendu les gens formuler leur état de santé en relation avec la violence plus directement. À part le psy, sans le vouloir.
Ouais, moi, je reviens sur la question des séries. Tu as dit qu'elles étaient fausses tout à l'heure. Est-ce que, vraiment, dans le sens qu'on a essayé de faire une petite vitrine autour des cartels, est-ce qu'il y a d'autres œuvres de fiction que tu considères comme une représentation plus juste de la réalité ou il n'y a que les sciences sociales J'imagine que. Ouais.
Non, en réalité, je le disais un petit peu rapidement, elles sont fausses. Elles sont très frustrantes parce qu'elles reposent toujours sur une personnalisation très, très forte des. Grand chef, et que à l'intérieur de ça, la question, ça devient est-ce que ce sont des bandits sociaux ou est-ce que ce sont des criminels sans foi ni loi et que voilà, il y a la question de leur personnalité, de leur structure. Dans le cas de Narcos, il y a une sorte de fantasmagorie sur le niveau d'organisation que représentait le début de... Tu l'as vu ou... Non, du coup, je ne sais pas. Il y a toujours une concentration ou sur la personnalité de ces chefs-là ou sur la clandestinité, le niveau d'organisation à l'intérieur d'un groupe. Et donc, je trouve que c'est toujours frustrant parce que ça parle de ces endroits. Narcos Mexico commence son générique avec l'ouverture de Bienvenue à Badiraguato. La municipalité est extrêmement personnifiée dans tous ces récits-là. Et il n'y a jamais la question de que font leurs économies et leurs actions à la population locale, parce que la population locale, elle est soit complice, soit complètement apathique. Bon, on a bien compris qu'ils trafiquaient de la drogue, mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi par rapport à... c'est quoi leur présence politique au-delà de la politique institutionnelle, s'il y a un effet. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un peu frustrant. Mais après, en fait, le récit de l'organisation du narcotrafic et des différents groupes et cartels au Mexique est assez connu. Donc il y a cette série qui retrace une partie de l'histoire à un niveau un petit peu plus... Ouais, macro, des rapports entre les groupes, des rapports avec le gouvernement, même si les rapports avec le gouvernement, il faut le prendre un peu plus avec des pincettes. Et il y a les bouquins de... un Américain. Oui, voilà, de Don Winslow, sur laquelle se base, je pense, un peu Narcos Mexico. Et oui, il y a plein de trucs qui sont... recherchés, vrais, d'autres où c'est complètement de la fiction. Et honnêtement, moi, je sais, il y a des endroits où je peux dire où est-ce que c'est de la fiction, mais d'autres, je sais, enfin, je saurais même pas le dire. Et c'est sûr que ça a un impact dans la manière dont je pense à Badiraguato, et ça rejoint peut-être Enfin, pas du tout, mais j'ai pas répondu à la partie des jeunes, de l'addiction à la drogue. Je pense qu'il y a une proximité très forte à Badilaguato vis-à-vis de ce monde-là qui est mis en scène et personnifié par les séries et les ouvrages, alors que dans des endroits juste à côté, dans le Sinaloa, peut-être moins. Et je sais qu'il peut y avoir des jeunes de la plaine littorale qui vont à Badilaguato s'ils ont de la famille élargie, et où là, on sent qu'il y a un truc où... Ce glamour du narcotrafic, il joue un petit peu un rôle, quoi. Et il y a très peu de... Il y a de la consommation de drogue autour de l'usage de la violence. Ça, j'en suis sûre. Enfin, c'est sûr que ça, c'est là. Il y a des cas de gens qui sont... Mais c'est très, très peu le cas. Les producteurs ne fument pas la beuh qui pousse sans arrêt à côté de chez eux. Et personne ne m'a parlé même de consommer la gomme de l'opium avant la transformation, parce que l'héroïne, c'est déjà un peu plus... Mais il n'y a pas de... Il n'y a bizarrement pas de consommation. Des drogues qui sont produites, notamment.
Parce que c'est bizarre, c'est pas un des principes du trafic de drogue, de ne pas toucher...
Non, ça, c'est un des principes de, pour être un bon dealer, il ne faut pas que tu prennes ta cam, tu vois. Mais c'est parce qu'il faut être toujours alerte et toujours tout ça, même si, en fait, pour la violence, souvent, il faut... Bon, je ne sais pas, mais il y a quand même une littérature là-dessus qui suggère que les excitants de divers et variés jouent un rôle là-dedans. Mais là, je parle de gens qui vivent leur quotidien, qui ne sont pas impliqués... qui sont paysans, quoi, donc ils pourraient, tu vois... j'ai pas trouvé... Des jeunes, si, je pense que chez les... avec des jeunes, ça... Ah oui, et par contre, un autre truc, dans mon enquête, j'ai pas du tout traîné avec des jeunes hommes, voilà. Et ça joue, je pense, un rôle dans ce que je raconte.
Est-ce que sur les mobiles, entre guillemets, des homicides, c'était pas le sujet de l'enquête, mais est-ce que les gens veulent savoir, et est-ce que, du coup, pour les petits producteurs, ils savent très bien qu'il y a des limites à ne pas franchir pour ne pas être inquiétés, et si oui, lesquelles?
En fait, les gens savent souvent. Ils commentent plus ou moins selon les cas chaque homicide, mais je me rends compte qu'ils savent souvent pourquoi telle personne a été tuée. Si je dis qu'il y a, concrètement, il y a des cas de vol de récolte où là, c'est l'entièreté de la famille qui a été tuée. Enfin, le père a été tué, la mère a été tuée, la sœur a été tuée, tout le monde a...
C'est eux qui ont volé, ils ne sont pas fait voler leur récolte.
Non, je n'ai jamais réussi à savoir s'ils étaient ouvriers agricoles sur une parcelle ou si c'était leur récolte et qu'ils ont essayé de sortir des réseaux d'intermédiation de vente ou compagnie, mais ils se sont tous fait tuer. Donc, il y a clairement des trucs, genre voler la récolte des voisins, ça peut le faire, mais voler la récolte du pesado, voilà, il vaut mieux, en fait, ce qui est impossible. Et du coup, en cherchant ce qui distinguait les homicides isolés, ceux pour lesquels les gens peuvent juste dire « Ah ben, on l'a bien tué pour quelque chose », voilà. Et les homicides qui impliquaient beaucoup d'inquiétude, c'est le seul cas où, en fait, un des deux fils de cette famille qui s'était fait tuer par le passé ont monté un groupe armé de gens qui étaient en fait des gens de peu et sont mis à tuer dans un truc, je pense, de vengeance. Mais là, je suis en train de le raconter à l'envers parce que ça, j'ai fini par comprendre à la fin de quoi parlait ce conflit. Parce que c'était le seul cas où les personnes m'en parlaient justement pas en disant « Ah ben, eux, ils se sont bien fait tuer pour quelque chose », mais comme il y a eu des gens qui se sont fait tuer, on n'a jamais compris pourquoi. Et en fait, en retraçant la distinction entre des gens qui se sont fait tuer pour quelque chose, et c'était évident, et des gens qui se sont fait tuer, on n'a jamais su pourquoi, c'est que pour avoir le droit de tuer et que ça rentre dans ce genre de quotidien, il faut être un dominant sur des marginaux qui sont en train d'essayer de rentrer dans le trafic ou qui sont en train d'essayer de s'en sortir ou d'être une femme qui a résisté à l'enlèvement de la part d'un pesado. C'est toujours inscrit dans le rapport de pouvoir. J'ai pas d'exemple de monter dans la hiérarchie sociale par la violence. Il faut déjà être en haut, avoir des hommes armés pour se protéger, pour tuer et que ça passe crème. ça passe quand même, tu vois. Ouais.
Et dans tout ce système de tuer pour garder une amie sur la récolte, pour le producteur, dans quoi ça s'inscrit le viol et le vol de femmes?
Ça s'inscrit dans. Enfin, ça s'inscrit. Je vais dire, ben, c'est les femmes, la terre, et c'est pas comme ça, mais c'est-à-dire que la manière dont les gens en parlent, ça s'inscrit plus là. Non, alors, je reviens. Efface ce que j'ai dit. Ça s'inscrit dans un continuum plus large d'objectivation des femmes et de prédation légitime sur les femmes. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'un enlèvement, sous la forme d'un viol, sous la forme de restriction d'empêcher de sortir des femmes qui sont dans la situation matrimoniale. Et je l'analyse comme ça, parce que, mais par contre, pour pouvoir voler une femme, il vaut mieux être, si tu es père d'une jeune fille et que tu es producteur, ou si tu es père d'une jeune fille et que tu es pessado, elle n'est pas du tout exposée de la même manière au vol de femme. C'est dans ce sens-là où ça s'inscrit. Parce que tu as les hommes armés pour protéger et tu as la réputation qui te protège. Mais le cas du vol de femme, il s'inscrit plus largement dans des rapports de genre marqués par. Par une très forte prédation des hommes sur les femmes et par le fait qu'il y a tout un tas de choses pour empêcher les femmes de participer à une compétition armée dont elles peuvent néanmoins être partie prenante. Elles peuvent être néanmoins des victimes collatérales, comme cette famille où c'est la femme, la mère, la soeur et deux sœurs qui se font tuer. Elles peuvent être victimes de violences, mais par contre, tout un tas de mécanismes sont mis en place pour qu'elles n'aient certainement pas leur mot à dire sur avec qui elles sont maquées, ce genre de choses.
Est-ce que tu crois que Théophile, finalement,
ouais.
Il protégeait quelque part la petite princesse qui traînait dans...
Ouais. Il me protégeait à moi, il protégeait une autre jeune femme qui était menacée par dont le mec n'était pas à Badi Lawato, mais avait été recherché dans le cadre d'un conflit qui est lié à celui dont je parlais tout à l'heure, et où elle sait qu'elle est menacée, qu'elle fait l'objet de menaces, et à ce moment-là, Théophilos met à être avec elle tout le temps. Et après, ça se calme, mais oui, et moi, très clairement, il me protégeait, mais il me saoulait aussi, enfin, c'était qu'il me protégeait, et à la fois, il...
Et te le formulait, tu dis ?
Non, il essayait de me faire peur. Ah, bah, là-bas, ils vont tuer, hein. Donc, il a jamais revendiqué face à moi le fait qu'il me protégeait, parce que ça aurait sapé un petit peu ses tentatives parallèles de me garder un peu sous son aile. Ben parce que s'il me disait qu'il me protégeait, ça allait me donner des ailes, comme il dit, et j'allais tracer où je voulais et ne pas écouter ses recommandations. Donc, ce qu'il faisait, c'était pas me dire qu'il me protégeait, c'était plutôt de me dire que c'est extrêmement dangereux, là. Tu peux pas aller dans la Sierra, tu peux pas aller, au contraire, il était plutôt un... Mais au fur et à mesure, j'ai pu me rendre compte, oui, qu'il y avait ça.
Oui. Je veux dire, vos femmes, finalement, n'ont pas un rôle tellement. Dans cette économie, finalement, elles ne rapportent pas vraiment de rôle, si ce n'est le fait des cibles potentielles. Elles ne peuvent pas être dans les conflits armés. Est-ce qu'elles sont dans la production, peut-être ?
Alors, elles sont complètement dans la production, mais de manière classique, comme dans une économie paysanne. Où le travail de la femme est lié à la fois à la maison et à la fois à une partie de la. Production, mais qui est invisibilisé, quoi. Il n'est pas truc.
De fait, elles ont un rôle quand même presque passif d'être. Elles ont un rôle dans ces opérations, de règlement de compte, qui se fait pour une passion, parce que si c'est elle aussi de privilégier, j'ai fini et je me posais la question, du coup, est-ce que vous avez observé des formes de recommandations,
de recommandations, justement, entre femmes, pour se défendre, ou du moins de mère à enfant,
peut-être plus
largement
la sphère des
armées. Elles sont, il y a des bouquins qui en parlent, il y a quelques figures qui sont des descendantes de grandes familles et qui prennent la place des mecs, et donc c'est des jefas del narco, donc c'est des femmes prominentes, mais qui ont toujours la caractéristique de descendre de très très grandes familles, donc leur père ou un truc était déjà quelqu'un de très important dans le business. Elles ne sont pas cibles en tant que telles de la des règlements de compte, mais elles peuvent en être une extension. On peut ça peut arriver.
Il n'y a pas une forme de gratuité,
je sais pas s'il y a une forme de gratuité. Je sais que oui, elles peuvent en être des victimes privilégiées, quoi. Mais c'est pas, je vois pas un truc systématique d'où on va tuer les femmes du mec, les filles ou la femme de tel mec pour toucher le mec. C'est arrivé dans des cas dont j'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu de manière générale. Et après, le seul endroit où, alors au contraire, il y a plutôt une très forte défiance entre femmes, parce que une des caractéristiques très répandues des jeunes femmes et des plus âgées, c'est d'être veuve très tôt. Comme c'est quand même de manière préférentielle les jeunes hommes qui meurent. Et donc, du coup, il y a des veuves à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, tout ça. Et j'ai observé beaucoup de disqualifications entre femmes sur le fait qu'elles re-rentreraient, d'après la personne qui m'est dit, dans le jeu de la séduction, alors que il faut pas, parce que ce jeu de séduction est extrêmement dangereux. Enfin, il est très difficile à manier. Et là où j'ai donc au contraire plutôt une défiance de si ça lui est arrivé, par exemple quand ma voisine se fait enlever, se fait violer, au début mon autre voisine est avec nous en train d'avoir peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et quelques mois plus tard elle me dit non mais ça va, elle en avait fait tout un plat, en réalité ils se connaissaient déjà, donc c'était un peu une querelle de couple. Le « ils se connaissaient déjà » était le mec avait demandé son numéro de téléphone et elle avait dit non. Donc, ils s'étaient déjà fréquentés. À partir de là, c'était normal qu'ils prennent 6 hommes armés pour l'enlever et la violer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, par contre, c'est les mères avec les jeunes filles où il y a une tentative, en fait, de faire attention à l'école, les balles en général c'est très compliqué, c'est plus des formes de protection, ou alors ce que font beaucoup de familles de la Sierra, c'est dès que leur fille peut aller au lycée, les envoyer dans la plaine littorale où ils ont de la famille élargie et les sortir de là, quoi.
Il y a une formule très dure hein, dans le livre, enfin, je me dis de mémoire, c'est, je ne sais plus qui dit à un moment donné, quand tu donnes de la soupe à l'un, c'était au philo, quand ouais. tu donnes de la soupe à l'un, il faut accepter de donner de la soupe ouais. aux autres. Enfin, c'est extrêmement dur et ça participe de cette responsabilisation ouais. de la victime, c'est une ça. Fois plus. Hein, c'est, donc c'était assez.
Oui, je disais qu'elles ont pas de marge de manœuvre dans ce jeu et dans cette compétition, et c'est exactement. C'est Théophilo qui me dit ça après l'enlèvement de ma voisine. Il dit oui, mais enfin bon, tu peux pas donner de la soupe à l'un et la refuser à l'autre parce que en fait elle voyait quelqu'un. Et c'est ça qui l'aurait rendu disponible. C'est ça qui fait que il y a beaucoup de phrases comme ça qui truc, et je l'ai vu dans les balles si on accepte de danser ou quelqu'un est sur le bord et ne danse pas, mais une fois que quelqu'un a accepté de danser avec un homme, il faut accepter avec tous les hommes. C'est-à-dire que c'est enlever la dynamique où elles peuvent choisir. C'est pour ça qu'elles sont rendues objets de cette compétition. Il y a tous ces mécanismes-là où c'est...
Est-ce qu'on peut faire une dernière question ou je sais pas.
Oui, c'est pour
continuer. Ouais, oui. Et éventuellement, est-ce qu'il y a une question? J'en avais une dernière. Oui. Ah. Oh là là, il y en a plein. Donc, par politesse, je vais vous les laisser. Mais... Allez-y.
Non, moi, c'était très simple. Je sais même pas les chiffres, mais tu as dit qu'on avait 18 mois pendant les 18 mois
Non. Pendant les 18 mois, je ne sais pas.
Tu ne sais pas?
Non. Je ne sais pas parce qu'il y en a qui sont sortis dans la presse, d'autres pas. Donc, je n'avais même pas. Et les archives. L'accès aux, aux documents administratifs était extrêmement compliqué.
Parce qu'il
devait
y avoir un problème
démographique. Ah oui, ben il y a... Il n'y a pas beaucoup de jeunes hommes. Et donc, du coup, il y a beaucoup de couples avec un homme âgé et une jeune femme. Oui, il y a un vrai problème démographique.
Moi, ma question, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas quelques aspects positifs dans les narcotrafics, dans le sens où ça procure des ressources. Par exemple, en Colombie, je sais que Pablo Escobar, à un moment donné, avait fait un quartier populaire, il donnait de l'argent aux équipes de foot. Enfin, il y avait vraiment un travail de redistribution des richesses. Est-ce qu'il y a ça?
Il y a eu ça à un moment donné avec Caro Quintero dans son hameau. Il y a la route, il a fait une route pour aller dans son hameau. Il a électrifié à un moment donné. Et dans les termes des administrateurs, c'est après le gouvernement l'a repris et s'est mis à l'exploiter. Donc la grande route qui sera la fierté d'AMLO si tout va bien, parce qu'elle va peut-être finir par être terminée, qui doit traverser toute la commune. Le tronçon du début, c'est Caro Quintero qui l'a financé. Donc il y a ça, il y a des petits trucs, mais du côté des pesados, donc qui sont ces gens qui accumulent en étant intermédiaires, ça c'est vraiment le cas d'une grande figure. Et El Chapo, je ne crois pas qu'il ait beaucoup fait. Donc c'est pour ça, oui, je parlais sur les affaires de série. Dans la lignée d'Escobar, on parle beaucoup de ça, sur ces grands chefs du narcotrafic. Et moi, j'ai entendu, ça me truc, des gens qui me disaient « Ah, machin m'a prêté une terre. Ben, Caro Quintero m'a prêté une terre. » Et après, j'apprenais que le mec est en train de verser un loyer pour des terres que Caro Quintero avait accaparées aux alentours. C'est intéressant comme prêt, c'est un loyer. Donc, au contraire, j'ai eu plus des éléments qui vont plutôt dans l'autre sens.
Bon, je me permets ma question. J'abuse de ma position. Mais tu as déjà répondu et il y a déjà eu des idées là-dessus. Moi, je me pose cette question qui, en effet, pourrait être conclusive, mais comment les habitants continuent-ils à souhaiter pouvoir... vivent dans cette partie du Mexique? Est-ce qu'il y a des désirs, des volontés finalement de la part des jeunes générations de partir? Alors, tu as parlé des jeunes filles, dès qu'on pouvait, on les envoyait dans des lycées, mais où est-ce qu'il y a des formes de résignation finalement, où on vit, déjà on ne peut pas toujours partir, hein, faut avoir les moyens de partir, donc ça c'est déjà une chose, soit on a la famille ailleurs au Mexique ou dans un autre pays, mais est-ce qu'il y a quand même des volontés? Parce qu'en effet, on parlait de je ne demande pas de chiffres non plus, de chute démographique. Quoi. C'est qu'à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on a encore envie de faire des enfants parce que c'est quand même un climat où on peut voir partir ses enfants jeunes ou alors tomber dans une espèce de trafic. Donc, est-ce qu'ils en parlent ou alors finalement, il y a une forme de résignation qui peut par ailleurs comprendre face à cette reproduction et cette perpétuation
Non, c'est compliqué. Je sais pas. Il y a un attachement à ces montagnes qui est très fort. Je pense qu'il y a le fait d'avoir sa famille élargie aussi, d'avoir grandi dans ce lieu. Et vraiment, l'attachement à cette montagne, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, quoi. Donc, il y a le fait que c'est difficile de partir, mais il y a des faits, par exemple, cette année, la fille de Lamberto et Alma, qu'ils ont réussi à envoyer sur la plaine pour qu'elle étudie à l'université, s'est inscrite en truc optique et elle me dit je veux ouvrir mon truc d'opticien dans son hameau et je trouve ça génial. Je vois pas comment ça va être possible, mais et je lui dis mais t'es sûr, mais maintenant que t'es en ville t'as pas envie? Ah non moi c'est vraiment ici que je veux vivre, je veux. Donc il y a au contraire des velléités de vivre dans. Et les montagnes sont magnifiques, effectivement. Et les gens sont extraordinaires. Enfin, je vois le truc, mais c'est des conditions de vie qui sont super difficiles, pourtant. Mais effectivement, il y a tellement de gens qui partent aussi. Je pense que, je ne sais pas si on se leurre un peu moins sur ce que veut dire partir quand on vient de Badilaguato et qu'on a la moitié de sa famille élargie qui est déjà aux États-Unis. Je ne sais pas.
Compliqué, en tout
cas. Mais oui, effectivement.
Bien, et ben, un grand merci à nouveau à Adèle pour cette discussion. Merci. Alors, que les choses soient claires, hein, il n'y aura pas des ouvrages pour tout le monde, donc sautez dessus dès à présent. Hein, c'est ça. Voilà. Économiquement, c'est pensé. Stratégiquement, bien. Merci à toutes et à tous d'être venus, et à distance aussi. Hein, il y avait pas mal de gens connectés aujourd'hui.